Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Grand frais cette semaine avec le site Futura Science qui nous parle de l'intelligence collective de la sardine. C'est bien connu, la sardine vit en banc. Des bancs parfois extrêmement serrés, parfois jusqu'à 1 million de ces petits poissons filent à vive allure en totale harmonie, sans jamais se heurter, dit Futura Science. C'est aussi le cas des étourneaux qu'on peut observer en nuée brune dans le ciel du soir. Et on apprend sur Futura Science que 3 règles basiques pilotent les individus d'une telle foule. Aussi basique soit-elle, cette intelligence collective inspire les chercheurs en intelligence artificielle. Par exemple, sur le même principe, ne pourrions-nous pas connecter des voitures pour qu'elles bougent sans jamais se caramboler ? Bienvenue sur RKS, la radio où l'intelligence est collective et pas encore artificielle. À 11h, la cuisine de Francis et tout de suite, le miroir des sciences. Vous avez le droit à votre propre opinion, mais pas à vos propres faits. Parole de Paul Romer, prix Nobel d'économie 2018. Voici le Miroir des sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. L'intelligence artificielle est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. C'est la définition proposée par Wikipédia dans laquelle nous allons faire, sur laquelle nous allons faire réagir nos invités aujourd'hui. Bonjour messieurs. Nous sommes avec Lucas Naxa qui est fondateur et président de la start-up NeoVision.
Bonjour François.
Bonjour Lucas, merci d'être avec nous. Et Éric Gossier qui est directeur du MIAI, Institut de recherche sur l'intelligence artificielle à Grenoble, une part de l'université Grenoble-Alpes, c'est ça ?
Tout à fait. Bonjour François.
Bonjour Éric. Alors, question traditionnelle avant de commencer à discuter le sujet qui nous réunit ce matin. Quand vous n'êtes pas à la radio le samedi matin, que faites-vous l'un et l'autre ? Quels sont vos loisirs, vos occupations, vos travaux du samedi matin ?
En général, je suis sur le marché qui est en bas de chez moi.
Ah, avec plaisir, quand il fait beau.
Avec grand plaisir.
Lucas ?
Et moi, ma passion, c'est la magie. Du coup, souvent le week-end, je m'entraîne et je travaille mes tours de magie.
Ah, super, vous nous en direz 2 mots un peu plus tard alors. Et puis, avec nous aussi, avec grand plaisir, Damien Bouévin, qui ouvre son biolab Nemeton.
Eh oui, bonjour à toutes et à tous.
Donc, vous nous en parlerez en fin d'émission.
C'est ça.
Et puis, n'hésitez pas à intervenir aussi au cours de la conversation. À tout de suite. Alors, en 2018, la revue du CNRS disait déjà, dans certains domaines, l'IA... la revue du CNRS titrait donc en 2018, disais-je, « Comment l'intelligence artificielle va changer nos vies ?» Donc, il était déjà acquis que les changements allaient avoir lieu. Je vous pose la question à tous les deux, en tant que spécialistes, l'un plutôt dans une entreprise et puis l'autre dans le milieu académique. Quels sont ces changements qu'on nous promet ou qui se dessinent avec l'avènement de l'intelligence artificielle ? Lucas Naxa.
Eh bien, il y a beaucoup de changements, en fait, dernièrement, grâce à l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses au niveau de l'analyse des données, l'analyse d'images, l'analyse du son, qui ont beaucoup évolué dernièrement. On a vu des choses apparaître dans nos smartphones, avec les assistants vocaux, à qui on peut poser des questions et qui nous permettent de faire des recherches et des outils.
Qui sont des intelligences artificielles.
Exactement, oui, qui sont des intelligences artificielles et des outils de plus en plus performants pour nos outils de recherche, par exemple, sur Internet, pour des outils de recommandation, par exemple.
Il faut dire que les navigateurs,
exactement,
en particulier le plus puissant d'entre eux, auquel on revient toujours, même quand on veut échapper.
C'est ça, les moteurs de recherche, voilà, utilisent de l'intelligence artificielle.
Il est particulièrement intelligent, celui-là.
Pour nous permettre de trouver, de faire des recherches sur Internet. Donc ça, c'est les choses les plus voyantes et les plus visibles qu'on voit aujourd'hui, au jour le jour, que tout le monde voit.
Il faut dire quand même que les navigateurs, donc il y a l'intelligence artificielle pour nous fournir des réponses, mais je suppose qu'il y a aussi de l'intelligence artificielle pour extraire des informations utiles par ailleurs de nos propres recherches.
C'est ça, exactement. Des sites web pour comprendre ce que veulent dire les sites web et comment est organisée l'information. Pour recommander également les bons contenus, c'est-à-dire que quand vous faites une recherche, il y a des contenus complémentaires qui peuvent être intéressants à vous proposer. Et pour tout ça, il faut pouvoir comprendre l'information, l'interpréter. Et tout ça, c'est un pan énorme de recherche qui a beaucoup progressé dernièrement et qui permet de faire ce type de choses de manière efficace.
Mais c'était pas ça que j'évoquais. J'évoquais l'autre face qui était l'extraction de données à partir de ce qu'on faisait ou des choix qu'on faisait. Faire remonter de la donnée chez Google pour l'utiliser par ailleurs.
C'est ça. En fait, pour pouvoir
proposer l'intelligence artificielle.
Exactement. Oui, pour pouvoir proposer le bon contenu à la bonne personne, et ben il faut comprendre le contenu, il faut comprendre les personnes également. Et donc on va analyser le parcours d'achat d'un utilisateur, le parcours de les intérêts d'un utilisateur, quels sont les articles qu'il a l'habitude de lire, par exemple, pour lui proposer des articles qui vont être similaires ou complémentaires à ses lectures.
Alors on reviendra là-dessus et sur ce risque parfois peut-être d'enfermement dans des préférences qui vont de plus en plus pointues vers des extrêmes dans un certain nombre de cas. Éric Gossier, il y a une chose qui me fascine dans ce que vient de dire Lucas, c'est que donc on a de l'intelligence artificielle avec Siri dans nos téléphones. Comment s'appellent les autres? Donc il y a Siri, Alexia,
Google Assistant.
Google Assistant, toutes ces interfaces qui permettent de commander le téléphone juste à la voix. Naïvement, je pensais que le recours à l'intelligence artificielle, c'était forcément avec un de ces grands ordinateurs. Enfin, c'est vrai que j'ai peut-être une culture qui date des années 80, et pour moi, l'intelligence artificielle, c'est 2001 Odyssée de l'espace avec cet ordinateur qui devient fou d'ailleurs, par ailleurs, mais qui est énorme et dans le ventre duquel on peut rentrer pour programmer, déprogrammer. Et là, je me dis, mais donc il y a de l'intelligence artificielle dans mon petit boîtier qui tient dans ma poche.
Oui, tout à fait. Je voudrais juste revenir sur la définition de Wikipédia de l'intelligence artificielle.
Je me disais que ça allait vous faire réagir.
En fait, je la trouve pas très bonne parce que c'est une définition qui était adaptée au début de l'intelligence artificielle, donc adaptée aux travaux qui avaient lieu dans les années 1950-1960. À ce moment-là, on essayait vraiment de reproduire ce que faisait le cerveau humain et puis de faire des tâches qui étaient faites par les humains. Et maintenant, je pense que le paradigme a un peu changé au sens où on n'essaye plus forcément de reproduire ce que fait le cerveau humain, on essaye de faire des tâches que font les humains, mais sans essayer de simuler ce que fait le cerveau humain. Et ces outils-là suivent des approches qui sont très très différentes de celles que nous utilisons. Je vais juste vous donner un exemple. Nous sommes capables d'extraire, par exemple, lorsqu'on veut traduire ou développer un système de dialogue homme-machine, nous sommes capables d'extraire nous sommes capables d'extraire quelques valeurs et de combiner ces valeurs-là pour prendre cette décision-là. Et si on a plus de 10 valeurs à traiter, on a beaucoup de mal à combiner ces 10 valeurs et à prendre une décision sur la base de ces 10 valeurs. Et les machines actuelles, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que ce soit Siri ou que ce soit les moteurs de recherche qui vont utiliser de l'apprentissage automatique pour nous donner les meilleurs résultats suite aux requêtes que nous avons écrites. Ces systèmes-là, en fait, combinent des dizaines de millions de paramètres, souvent, et prennent une décision sur la base de ces dizaines de millions de paramètres. Par contre, ils sont incapables d'arriver à extraire les quelques paramètres qui pour nous sont pertinents et nous permettent de prendre des décisions. Eux sont plutôt capables d'utiliser un nombre impressionnant de paramètres et de les combiner de cette façon-là. Donc c'est très différent la façon d'aborder les choses. Et du coup, ce terme intelligence artificielle n'est pas très bon. C'est un petit peu comme si on appelait un avion un oiseau artificiel, alors que l'avion ne vole absolument pas comme un oiseau. Vous ne voyez pas virevolter à gauche, à droite, battre des ailes.
Par contre, il rend des services à l'humain, et c'est un petit peu dans cet état d'esprit que vous travaillez. Alors.
C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'on voit ces logiciels comme des outils qui vont aider les humains. Donc Siri, c'est un assistant. Effectivement, il y a de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des données qui ont été fournies à un système qui a appris ensite un modèle, qui a appris un système de dialogue homme-machine qui est capable ensuite de pouvoir répondre à vos questions. Donc il a appris sur un certain nombre de données. Et ça, c'est le paradigme dominant. Les moteurs de recherche ont travaillé de cette façon-là au début des années 2000, en fait, dès le début des années 2000. Donc même le titre « Comment l'IA va changer votre monde », il est dépassé, en fait, en 2018, parce que ça a commencé bien avant, en fait. Et puis, donc on donne des données, puis il y a un système qui apprend à partir de ces données des modèles qui vont permettre de réaliser une certaine tâche.
Alors, sauf que ce qui change peut-être, qui nous fait passer dans une autre dimension ces dernières années, ou ces 10 dernières années, c'est quand même la capacité de calcul. Et le fait qu'on a la possibilité de traiter de façon massive beaucoup, beaucoup de données de façon rapide. Il y a eu une période où on parlait déjà de deep learning, d'apprentissage profond, de choses comme ça. Et les concepts de l'intelligence artificielle, effectivement, étaient déjà présents. Mais ça a chopé un peu, non, sur les questions de capacité de calcul.
Oui, ça a beaucoup, beaucoup évolué, effectivement, cette partie-là. Il y a tout ce qui est apprentissage, ça nécessite effectivement beaucoup de calculs et donc de la puissance pour faire tout ça. Il y a les cartes graphiques qui ont énormément permis de faire évoluer les choses il y a quelques années, qui permet de faire beaucoup de calculs et d'avoir beaucoup de...
C'est-à-dire lire et interpréter images, tout ce qui est fichier image.
La vitesse de lecture est importante. Et aussi le nombre de calculs qu'on va pouvoir faire à la seconde. Et ces deux choses-là ont beaucoup évolué et ont permis en fait d'entraîner des modèles de plus en plus importants pour des tâches de plus en plus complexes. Et on a réussi il y a quelques années, notamment sur l'analyse d'images, à dépasser des performances qui étaient similaires à celles de l'homme sur des tâches très simples, comme dire si l'image que j'ai devant moi est un chien, un chat, un arbre ou un vélo ou une voiture. Un humain en moyenne, il va se tromper 5% du temps. Sur ce type de tâche, il ne va pas pouvoir différencier les races de chiens, par exemple, ou alors il va se tromper entre une espèce d'arbre ou une autre. Et depuis 2015, à peu près, la machine, sur cette tâche-là précisément, elle est capable de faire mieux que 5% d'erreurs. Et ça, parce qu'on avait des grandes bases de données annotées précisément avec, sur chaque image, on sait s'il y a un chien, un chat, et où est-ce qu'il se trouve, mais également parce qu'on avait la puissance de calcul suffisante pour pouvoir entraîner une intelligence artificielle à faire ce type de tâche. Et donc les cartes graphiques ont permis de faire ça, et tu parlais tout à l'heure d'avoir une intelligence artificielle effectivement dans son téléphone portable. Les puissances de calcul se sont aussi miniaturisées, et maintenant on a des processeurs spécifiques pour l'intelligence artificielle, et on en a aujourd'hui tous dans nos téléphones portables, qui permettent du coup de réaliser ce type de tâche sans avoir le téléphone.
Ah, des calculateurs qui sont dédiés à cette partie intelligence artificielle.
Ouais, parce que sinon je note quand même que décidément les cartes graphiques entre l'IA et les crypto-monnaies servent à beaucoup plus de choses que juste afficher des c'est graphismes.
Exactement, si vous allez sur le site d'un des grands constructeurs, par exemple Nvidia, vous verrez qu'il communique grandement sur l'intelligence artificielle, alors que sa principale cible à la base, c'était les gamers avec les jeux vidéo. Mais aujourd'hui, les cartes graphiques sont utilisées pour entraîner les...
Oui, je me souviens, dans les grands ordinateurs, enfin les ordinateurs tours qu'on avait, il fallait acheter une carte graphique qu'on insérait pour muscler un peu notre capacité d'affichage pour les jeux. Alors, à propos de reconnaissance d'image, vous vouliez évoquer quand même un des développements de votre société NeoVision, qui est tout à fait d'actualité ces jours-ci, il faut en parler.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a le Street Art Festival qui est en cours en ce moment.
Jusqu'au 4 juillet.
Jusqu'au 4 juillet, c'est ça. Et il y a une application mobile qui s'appelle Street Art Fest Web App, que vous pouvez installer directement sur votre téléphone via une URL. Et en fait, cette application, quand vous vous trouvez devant une œuvre de street art à Grenoble, vous pouvez la prendre en photo, ça va la reconnaître grâce à une intelligence artificielle, et ça va vous retourner toutes les informations sur l'œuvre. Donc qui est l'auteur, qu'est-ce qu'il a voulu dire par cette œuvre-là, où se trouvent les autres œuvres également dans la ville du même auteur. Vous avez aussi des parcours qui sont proposés. Il y a un parcours art engagé, par exemple, où vous pouvez voir plusieurs œuvres d'art engagé. Et puis, si une œuvre vous plaît, vous pouvez aller vous balader dans Grenoble, trouver les autres œuvres du même auteur et ainsi découvrir encore plus le street art à Grenoble.
Street Art Festival jusqu'au 4 juillet dans les rues de Grenoble. Donc, c'est deux mentions pratiques que je dois donner à ce point de la conversation à l'antenne. Premièrement, vous pouvez retrouver sur le blog de l'émission un excellent échange que nous avons eu avec Jérôme Katz, le fondateur du festival, en janvier. Peut-être Damien s'en souvient. Et puis, la deuxième information, c'est que donc c'est une information spécialement destinée à deux personnes qui sont derrière la vitre, ma mère et ma tante, qui nous assistent ce matin et qui visitent la ville de Grenoble. Ce sera peut-être une façon de se promener cet après-midi. On revient dans un instant au Miroir des Sciences sur RKS 97 FM.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
RKS 97 FM, c'est le miroir des sciences. Une petite info à vous donner. 25 et 26 juin, RKS est en direct du Music Frat. Des places pour le festival sont à gagner en s'inscrivant sur radio-rks.fr.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Éric Gossier, directeur du MIAI, Institut de recherche sur l'intelligence artificielle à Grenoble, et Lucas Naxa, fondateur et président de la start-up Neovision, sont avec nous et on parle d'intelligence artificielle. Alors Éric, pendant la pause musicale, il faut le dire à nos auditeurs, nous avons convenu de repartir sur une question qui m'était venue quand je vous entendais parler de dizaines de milliers de paramètres qui amenaient une intelligence artificielle à prendre une décision. Évidemment, la question qui surgit tout de suite, c'est l'explicabilité de ça. Si une intelligence artificielle décide de vous envoyer dans le mur parce qu'elle pilote votre voiture autonome, est-ce que vous pourrez revenir en arrière en disant qui est responsable ? C'est toujours la question, hein, dans la société qui transcende notre société. Qui est responsable ? Qui va payer ?
Oui, alors, je vais commencer par un petit détour. Je suis désolé, je crois que les scientifiques aiment bien les détours, finalement. Juste pour expliquer l'engouement actuel de l'intelligence artificielle et s'appuie sur l'apprentissage automatique. Il faudrait juste réexpliquer un tout petit peu très clairement ce que sont ces techniques d'apprentissage automatique et on comprendra un peu mieux la nécessité de ces dizaines de milliers de paramètres, temps de données,
quand
etc.
Quand vous voulez mettre en œuvre une intelligence artificielle, il faut qu'elle ait appris quelque chose avant.
C'est le paradigme actuel. Donc c'est le paradigme de l'apprentissage automatique et c'est le domaine de l'intelligence artificielle qui est le plus en vue à l'heure actuelle et c'est sur ce domaine-là. C'est à cause de ce domaine-là qu'il y a ce renouveau autour de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres aspects dans l'intelligence artificielle, il y a des aspects d'optimisation, mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, enfin, ou ce qui défraie un peu les chroniques à l'heure actuelle, c'est l'apprentissage automatique. Donc ça veut dire, par exemple, on veut apprendre à reconnaître des visages, le visage de François, de Lucas, de Damien, d'Éric, mais on va avoir des photos de nos visages, et on va avoir, donc ça c'est ce qu'on pourrait considérer comme l'entrée du système, et on va aussi avoir des étiquettes associées à chaque photo, donc les sorties. Par exemple, ça c'est une photo du visage de François, d'Éric, de Lucas, de Damien, etc. Et on a besoin, et c'est à partir de ces entrées et ces sorties, donc le visage, l'étiquette, que le système va pouvoir apprendre. Et en fait, le système va simplement choisir, dans un ensemble de fonctions, un ensemble de procédures, la procédure qui va lui permettre de passer des entrées des pixels décrivant les visages, aux sorties, c'est-à-dire c'est le visage de François, c'est le visage de Lucas, c'est le visage de Damien, c'est le visage d'Éric. Plus cette tâche est complexe, plus on va avoir besoin de données pour le faire, et plus on va avoir besoin de procédures complexes pour le faire.
Oui, je pense à une petite... je vous glisse une petite pique entre-temps. Si François revient de vacances très 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 bronzé, est-ce que l'intelligence artificielle va le reconnaître par rapport à une photo qui aurait été prise en plein hiver où il était tout blanc ?
C'est une très très bonne question. Donc effectivement, si on n'a que des photos du visage de François blanc, ben, il est possible que l'intelligence artificielle, que le système ne reconnaisse pas François. Et c'est un petit peu... ce qui est très important dans cet exemple-là, c'est d'une part de se dire, ben, si on a une tâche complexe, il va falloir beaucoup de données à noter. Donc vous voyez que ce processus d'annotation, de mettre des étiquettes sur les entrées pour avoir la sortie qui nous intéresse, c'est un processus qui peut être coûteux. Donc c'est un processus de labellisation.
En temps, en énergie,
en argent, en ressources humaines, etc. Et plus cette tâche est complexe, plus on va avoir besoin de données. Et plus elle est complexe, plus on va avoir besoin de procédures complexes pour pouvoir passer de ses entrées à ses sorties. D'où ce deep learning, cet apprentissage profond. C'est simplement des réseaux de plus en plus complexes pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Voilà, donc ça c'est un point important. Et effectivement, on arrive à avoir de très bonnes performances, mais dans un cadre qui est le suivant, c'est-à-dire que les données sur lesquelles on doit appliquer ces systèmes appris doivent être proches des données sur lesquelles ils ont été appris. Sinon, on n'a plus aucune garantie théorique du bon comportement de ces données-là. Par contre, on arrive à avoir des garanties théoriques sur cette hypothèse de proximité des données.
Ah oui, donc il faut
données.
En permanence vérifier. Quand on utilise une IA, il faut lui adresser des questions qui sont dans son champ de compétences. Ceci dit, c'est vrai aussi avec un professeur d'université.
Hein. C'est vrai aussi avec un
si
professeur d'université.
Si vous demandez à un physicien d'analyser la politique et inversement, il y a plus de risques qu'il y ait des biais.
Non, mais c'est un très bon point et je pense que c'est important de garder cette limitation en tête. Voilà, donc... Du coup, lorsqu'on a des tâches complexes, plus de quatre visages à reconnaître, etc., on va avoir besoin de beaucoup de données et de procédures complexes pour les réaliser. Et ces procédures vont s'appuyer, alors sur les grands systèmes, elles s'appuient sur des millions de paramètres différents. Et donc, ces paramètres sont combinés. En fait, ce que va apprendre le système, c'est comment combiner ces millions de paramètres de façon à produire la bonne sortie. Et effectivement, on ne peut pas fournir simplement la valeur de ces millions de paramètres à une personne pour dire voilà pourquoi la décision a été prise. Donc là se pose, vous voyez que c'est une façon de procéder très différente.
Donc la décision rendue par une intelligence artificielle n'est pas explicable au sens rationnel du terme ?
Non, je ne dirais pas cela. Il y a beaucoup de travaux qui cherchent à l'expliquer. Donc d'une part, là on parle de ces gros systèmes avec plusieurs millions de paramètres, mais il y en a des systèmes qui se reposent sur moins de paramètres. Et donc, on a des approches qui permettent d'avoir une explication presque directe. Donc, voilà, il y a une coexistence de ces deux types de modèles, en fait. Et pour ces modèles qui sont très à la mode dans le monde de la reconnaissance d'images, même dans le monde du traitement automatique des langues, comme la traduction automatique, ben on essaye d'extraire un petit peu les éléments les plus importants pour guider cette explication. Alors... Ceci étant, je pense qu'il faut se dire une chose aussi, c'est que pour moi, ce sont des outils, enfin pour beaucoup de gens, ce sont des outils qui vont venir aider une personne dans sa tâche. Et du coup, il y aura toujours ce regard-là, et je pense que la performance de ces systèmes est importante, mais le fait de comprendre entièrement ou pas n'est pas toujours important. Et je pense que beaucoup de gens utilisent leur voiture sans comprendre absolument le fonctionnement de cette voiture, simplement le niveau de performance est tel qu'on accepte cela.
Alors on se tourne vers Lucas Naxa de nouveau, parce que vous avez des clients. Ce que décrit Éric Gossier, c'est un petit peu déstabilisant, pour peut-être un patron de PME qui sent bien que ça pourrait lui apporter peut-être quelque chose de mettre de l'intelligence artificielle dans son offre. En même temps, quand vous dites on part dans un champ absolument nouveau, si on pose des questions hors du champ de compétences, ça va répondre à côté. Finalement, les réponses, elles vont aussi évoluer au gré de l'apprentissage, parce que l'intelligence artificielle continue à enrichir son corpus de connaissances, enfin peut-être dans certains cas ou pas d'autres, au fil des expériences. Comment des gens qui sont un peu extérieurs à ça viennent à vous, peut-être pour vous demander de créer des fonctions dotées d'intelligence artificielle, et ne sont pas... Comment vous les rassurez ?
Alors, c'est une bonne question. Comme le disait Éric, en fait, aujourd'hui, les intelligences artificielles sont très bonnes pour résoudre certaines tâches bien précises. on maîtrise bien quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, quelles sont les attendues finalement. Et donc nous, notre travail, à nos visions, c'est d'accompagner les entreprises à bien définir cette boîte en fait, à bien définir quel est le problème, quelles sont les données associées à ce problème-là. Est-ce que les données dont je dispose dans mon entreprise sont bien représentatives de mon problème? Est-ce que j'ai suffisamment de données? Est-ce que j'ai suffisamment de données, mais aussi en qualité? Est-ce que la qualité est assez bonne? Est-ce que je suis capable d'annoter et d'apporter l'expertise sur les données pour dire ce qu'elles veulent dire? Par exemple, je suis sur une chaîne de production, je produis des pièces métalliques et je veux pouvoir détecter des défauts et dire si c'est un défaut de type A, B ou C. Le A, il est critique, le B, il est acceptable et le C, il n'est pas grave, et ben il faut que je sois capable de pouvoir créer un jeu de données, donc par exemple mettre une caméra, regarder, créer des images de ces défauts-là, et pouvoir mettre dans un dossier plein d'exemples de défauts A, plein d'exemples de défauts B, plein d'exemples de défauts C. Et ce qu'on se rend compte, c'est que
comme
parfois...
l'histoire du personnage bronzé. Effectivement, si on n'a jamais présenté la photo du personnage bronzé à l'IA, elle ne pourra pas...
C'est ça, et tout l'enjeu, c'est d'avoir suffisamment d'images de chacun des défauts, de bien pouvoir dire de quel type de défaut il s'agit. Et ça, donc, il faut un expert métier, quelqu'un qui est capable de dire oui, ce défaut-là, il est critique, ce défaut-là, il n'est pas critique, et d'avoir suffisamment de données de chacun des défauts pour pouvoir entraîner une IA à différencier les trois. Et donc, tout l'enjeu derrière, c'est de pouvoir accompagner ces experts-là à qualifier leurs données et de créer les bases de données suffisantes nécessaires pour pouvoir entraîner après une IA à différencier les trois défauts. Tu parlais tout à l'heure des IA qui évoluent et qui continuent à apprendre sur
oui,
un
c'est
champ
le cas.
Mouvant.
C'est toujours le cas ou il y a des IA qui sont bloquées?
C'est pas toujours le cas. Par exemple, pour l'exemple de la classification de défauts dont je parlais tout à l'heure, là, sur une chaîne de production, une fois qu'on a les bases de données et qu'on a testé les intelligences artificielles sur des cas connus, on peut maîtriser la statistique, se dire « Ok, dans 99% des cas, elle arrive bien à prédire le type de défaut. » On fige l'intelligence artificielle, on fige les paramètres dont parlait Eric tout à l'heure, et on déploie ensuite cette intelligence artificielle sur un site industriel, et tous les jours, elle fera la même tâche de la même manière, et elle aura la même statistique de détection et de classification de ces défauts-là. À part si les défauts commencent à changer, ou de nouveaux défauts apparaissent, l'IA aura toujours les mêmes performances, et elle sera incapable de détecter ou de se rendre compte que le périmètre change. Ça, c'est à l'humain et à l'expert métier de s'assurer que le périmètre ou le fonctionnement de l'intelligence artificielle est toujours dans le même périmètre, quoi.
Alors la presse fourmille d'exemples, d'anecdotes croustillantes d'IA qui se seraient trompées et nous emmèneraient vers des chemins dangereux ou biaisés. On va peut-être en parler juste après la seconde pause musicale, pause pendant laquelle vous allez ouvrir cette boîte que vous avez devant vous et vous découvrirez la collection des miroirs de l'émission.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Video killed the radio star.
les Buggles sur RKS 97FM, Video Kill the Radio Star, pour faire un clin d'œil à une des angoisses que nous projette l'intelligence artificielle. Va-t-elle nous remplacer, ou quelle technologie à laquelle on est très habitué, l'intelligence artificielle pourrait-elle suppléer? C'est à voir, c'est peut-être une des questions qu'on va poser à nos invités dans la suite de l'émission.
RKS, l'esprit grenoblois.
Voilà, on y arrive avec ce petit jingle. Alors, messieurs, j'avais donc une question sur les biais d'apprentissage. C'est ce dont on discutait, il faut le dire aussi, allez, on soulève, pendant la pause musicale, ce dont on discutait, c'est ces fameux biais d'apprentissage dont, je le disais, la presse aime nous raconter les pires histoires. Donc, est-ce que c'est un vrai risque, selon vous, messieurs, qui êtes promoteurs de l'intelligence artificielle et de sa pénétration dans la société?
Alors oui, c'est un vrai risque, parce que effectivement, qu'est-ce que c'est un biais déjà? C'est qu'on ait des données qui soient pas représentatives du problème qu'on veut résoudre. Et donc, reconnaître
les données d'entrée,
c'est ça, les données d'apprentissage. Ce qui peut être vicieux, en fait, c'est que ces biais-là peuvent être, ils peuvent être culturels, ils peuvent être sociaux, ils peuvent être liés au contexte également, ils peuvent être liés à des croyances qu'on a ou à des connaissances limitées qu'on a à un moment donné, à un instant T. Chasser les biais, c'est un peu le quotidien, on va dire, d'un développeur en intelligence artificielle, c'est comprendre, ou d'un data scientist, quelqu'un qui analyse les données, c'est comprendre, est-ce que mes données sont bien représentatives, est-ce qu'elles sont suffisamment en bonne quantité, est-ce que j'ai pas des défauts dans mes données, est-ce que j'ai pas des trous dans mes données.
Alors ça, c'est très intéressant, vous faites le lien avec la suite de la conversation telle que je l'avais prévue, en tout cas. Après, on peut toujours dériver, hein. Ça dépend des données d'entrée. les métiers. Donc, chasseur de biais, est-ce que c'est une sorte de métier dans la discipline de l'IA? Éric Gossier, peut-être vous qui êtes dans un établissement d'enseignement supérieur, vous formez les chasseurs de biais?
Chasseur de biais, ça va au-delà de l'IA. En fait, parfois, les données peuvent être représentatives de...
Chasseur de fake news, en
fait. Les données peuvent être représentatives d'un état de fait, et cet état de fait peut être biaisé socialement. Et on peut vouloir, donc là en l'occurrence, les données, c'est ce qui se passe par exemple sur les données de justice américaine. Donc les données qu'on a, elles sont tout à fait représentatives des décisions de justice qui ont été prises. Par contre, ces décisions de justice sont biaisées, et elles sont socialement biaisées.
Parce qu'elles sont le reflet de certaines biaisées. Valeurs, des valeurs de la société américaine.
Par exemple, ou racialement biaisées. Et là, on a envie de dire, mais même si nos données sont le parfait reflet de cette société, de cet état de fait là, on a quand même envie de dire, ben non, on ne peut pas se permettre d'utiliser des paramètres liés, d'utiliser principalement des paramètres liés à la race ou à la classe sociale, etc., pour prendre ces décisions. Donc on va essayer de non pas de débiaiser les données, mais simplement de débiaiser les décisions qui sont prises. Donc on ne peut pas fondamentalement changer ces données là puisque elles peuvent être tout à fait correctes. Par contre, on va essayer d'avoir des modèles qui font abstraction, pas entièrement abstraction, parce que ça peut être des paramètres qui sont utiles à la décision, mais qui essayent de ne pas faire porter trop de cette décision sur ces paramètres-là. Donc de lever un peu ces biais structurels, sociétaux qui existent sur ces systèmes-là.
Oui, alors encore un domaine qui peut nous surprendre d'application de l'intelligence artificielle, effectivement, la justice.
Oui, tout à fait. Et du coup, chasseur de biais, oui, pour les métiers de l'intelligence artificielle ou de la science des données, comme vous a mentionné Lucas, mais oui aussi pour les sociologues dont le premier travail va être d'identifier ces biais-là et puis de les faire connaître.
Et donc là, l'IA peut aussi aider justement à mettre le doigt sur ces problématiques, oui, et être utilisée comme outil cela.
Tout à fait. Et du coup, l'IA peut aussi aider, pourrait aussi aider la justice. Mais là, c'est un petit peu plus délicat. Je pense que de toute façon, ça reste, je pense encore une fois, ça reste des outils, donc des éléments supplémentaires pour une décision humaine. Mais là, on rentre parfois dans un cadre qui est limite pour ce genre d'utilisation. C'est par exemple, si un juge décide, est intimement convaincu qu'une personne ne va pas récidiver, donc peut être libérée, sous caution par exemple, ou peut avoir une libération anticipée, et que le système d'IA, lui, prévoit que la personne a une forte probabilité de récidiver, mais le juge, je pense, sera fortement influencé, ou pourrait être fortement influencé par cette décision-là, et se dire, oui, mais si jamais il y a récidive, je pourrais être attaqué parce que je n'ai pas suivi la décision de l'intelligence artificielle. Mmh. Et même s'il a raison, même si la décision revient in fine,
il lui faudra beaucoup de courage pour aller contre la décision technique.
Exactement. Donc là ça pose des cas d'usage. Enfin, c'est un cas d'usage qui pose des questions assez fondamentales.
Alors, Éric Gossier, directeur du MIAI, Institut de recherche en intelligence artificielle à Grenoble, et Luca Naxa, fondateur et président de la start-up Neovision, sont avec nous au Miroir des Sciences sur RKS ce matin. Devant vous, messieurs, la fameuse boîte de la collection des miroirs de l'émission. Vous l'avez ouverte et vous en avez choisi chacun un. Lequel de vous deux veut commencer en décrivant le miroir qu'il a choisi? Alors, silence. Lucas, peut-être?
Ben, écoute, moi j'ai un beau miroir que je peux tenir dans la main, qui a l'air d'être avec un style... Un peu, du 17e ou 18e, je sais pas trop te dire, en argent, entièrement en argent, et où je vois une personne avec des cheveux bleus dedans.
Ah, c'est qui?
Eh ben, c'est moi, écoute.
Voilà, donc finalement, vous l'avez choisi pour sa fonction directe de reflet.
Exactement. Et puis aussi pour son esthétisme, je le trouve très beau.
Voilà. Et par une astuce de langage, vous vous êtes présenté un peu plus à nos auditeurs. Éric Gossier, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors en plus, il faut dire que j'ai un écran devant moi, donc là je ne vois absolument pas ce que vous avez choisi. Allez-y.
J'ai choisi un miroir.
Donc, je suis dans les conditions des auditeurs.
J'ai choisi un miroir tout simple. En fait, c'est juste un petit rond qui doit faire à peu près 3 cm de diamètre et qui a une face sombre qui n'est pas réfléchissante, ou très faiblement réfléchissante, et une face un peu plus marron avec des motifs concentriques, plus ou moins concentriques, font pas forcément des cercles dans ce petit cercle, et un petit peu un petit camaïeu de marron. Et la particularité de ce miroir, c'est qu'il est très peu réfléchissant, donc on a du mal à se reconnaître dedans. C'est pas pour ça que je l'ai choisi pour la forme, mais finalement c'est pas un très bon miroir.
Éric Gossier, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser, à vous investir dans l'intelligence artificielle, au point de diriger donc une maison qui est dédiée à cette discipline?
En fait, ça a été lié à la thèse que j'ai faite. Et du coup, quand j'étais jeune, j'étais très intéressé par les mathématiques, j'étais aussi intéressé par le langage. Et j'ai eu l'opportunité de faire une thèse qui a été financée par le centre scientifique d'IBM France, qui n'existe plus, mais qui existait à l'époque. Et ce centre scientifique se trouvait Place Vendôme à Paris, donc c'était un bâtiment magnifique. Et j'ai fait cette thèse, donc financée par le centre scientifique d'IBM France, à la fois dans ce centre-là et puis dans le département de linguistique de Paris 7, en informatique linguistique. Et je travaillais sur la traduction automatique. Et c'était à cette époque-là, en France en tout cas, la tendance était plutôt de développer des systèmes de traduction automatique par un ensemble de règles, donc plutôt une approche très système expert, je dirais. Et puis il y avait quelques personnes qui s'intéressaient, notamment à IBM, des personnes qui s'intéressaient à des approches plus orientées sciences des données, donc partir des données pour essayer d'apprendre directement des règles de passage, des systèmes qui veulent de passer d'une langue à une autre.
C'est cette voie-là qui vous intéressait.
Et c'est ce qui m'intéressait par-dessus tout. En fait, donc dans le langage, il y a une certaine opposition qui est performance versus compétence. Donc la performance, imaginez, c'est l'ensemble des règles de grammaire que vous avez pu apprendre. Et la compétence, c'est le fait que même des personnes qui sont pas allées à l'école, qui sont illettrées, sont capables malgré tout de parler une langue. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à partir de données auxquelles pouvait être confronté ce genre de personnes et voir ce qu'on pouvait en extraire. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, c'était pas l'approche dominante à cette époque-là, c'est maintenant l'approche dominante de partir des données.
Donc vous êtes un pionnier.
Vous
suiviez les pionniers. En tout cas, vous avez,
si vous
avez
voulez,
une intuition intéressante.
Ouais, c'était aussi l'intuition de ma directrice de thèse et puis de mes encadrants IBM. Par contre, je suis persuadé que cette approche juste à partir des données pour le langage n'aboutira pas jusqu'au bout. On a forcément besoin d'autre chose. Et j'ai un peu le sentiment qu'on atteint un peu les limites de cela.
Lucas Naxa, donc vous aussi vous êtes complètement plongé dans l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous défendez bec et ongle à travers cette start-up. Et on sait combien monter une entreprise et l'animer, c'est quand même beaucoup d'énergie, mais aussi parce que votre communication à Neovision, elle se manifeste par beaucoup de pédagogie sur vos propres projets, pris comme exemple de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle.
Oui, complètement, du coup. De mon côté, moi, ce qui m'anime, en fait, c'est depuis toujours, j'ai toujours adoré comprendre un peu l'intelligence, la conscience, l'homme, de manière générale, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qui nous anime, en fait. Et depuis tout petit, j'ai toujours été fasciné par la science-fiction, par les films avec les robots, avec ces robots intelligents avec qui...
2001, Alien.
Voilà, tous ces films qui... moi, c'était iRobot qui m'avait pas mal fasciné quand j'étais plus jeune. Puis, j'ai adoré les mathématiques et l'informatique très, très vite. J'ai eu un ordinateur assez tôt. Et puis après, par mes études, je me suis retrouvé dans un laboratoire de recherche en intelligence artificielle, je pense pas par hasard. Et j'ai ensuite fondé Neovision. Et comme tu le dis, on est... On axe beaucoup sur la pédagogie et notre slogan c'est l'intelligence artificielle à la portée de tous, parce qu'effectivement vous l'avez un peu entrevu dans les discussions qu'on a eues, il y a beaucoup, beaucoup de sujets, c'est des sujets assez complexes avec des mathématiques, de l'informatique, du matériel, du calcul, pour derrière faire des projets potentiellement concrets pour des entreprises qui ont des vrais besoins, qui ont des vraies problématiques, et donc il faut vulgariser tout ça, il faut démystifier un peu ces sujets-là. Ça, c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur.
Et quelque part, vous faites le lien entre ce savoir académique et puis les besoins très concrets des entreprises.
C'est ça, exactement. Et je pense qu'on a aussi un rôle important sur le choix des projets qu'on fait, d'avoir des projets vraiment qui ont un impact positif, je pense, sur la société, sur l'environnement. En tout cas, nous, c'est des choses qui nous tiennent à cœur.
Un petit exemple de projet qu'on a zappé tout à l'heure, on avait convenu d'en parler, Transarc.
Oui, complètement. Alors, Transarc, c'est un projet que j'aime beaucoup. C'est un transporteur scolaire. Qui transporte donc les enfants le matin et le soir des abribus jusqu'à l'école et jusqu'à la maison. Et ce transporteur était venu nous voir pour justement optimiser, savoir où recruter les bonnes personnes en fonction de ses tournées. En fait, en regardant ses données, en discutant avec lui, on s'est rendu compte qu'avec une intelligence artificielle qui s'appuie sur de la recherche opérationnelle, donc de l'optimisation combinatoire, on était capable d'affecter les bonnes personnes, les bons conducteurs aux bonnes tournées. C'est un exemple très simple, un conducteur qui est au sud, qui fait sa tournée au nord, on pourrait l'échanger avec un conducteur qui est au nord et qui fait sa tournée au sud. Ça semble évident, mais quand on a vraiment beaucoup de conducteurs et beaucoup, beaucoup de tournées, ça devient impossible pour un humain de faire les bonnes associations. Et là, une intelligence artificielle qui vient tester les possibilités...
Parce que justement, comme le disait Eric Gossier, elle est capable de prendre des décisions à partir de très grands ensembles de paramètres, beaucoup plus largement que...
Exactement. Ouais. Elle est capable de proposer sur un tableau de bord au manager des optimisations qui vont bien. Et en fait, en utilisant notre logiciel, en 6 mois d'utilisation, l'entreprise a pu économiser 500 000 km par an. Et 1 km, c'est 1 euro, c'est autant de gasoil économisé. Donc, des transporteurs qui font moins de tournées à vide et qui transportent plus souvent des personnes, une entreprise qui est optimisée ses tournées et qui est capable maintenant, en grandissant, et en acquérant de nouvelles structures, d'appliquer ce type d'algorithme sur l'ensemble de ses tournées et d'optimiser l'ensemble de son parc de transport.
Alors, on a évoqué des applications dans la justice, dans le transport, dans les arts plastiques. On va tout de suite écouter un morceau de musique qui avait été composé par une intelligence artificielle. On verra ce que vous en pensez.
Something new, it turns me on. Good day.
figurez-vous qu'il se passe toujours des choses en coulisses dans le cours d'une émission de radio. En l'occurrence, je viens d'indiquer que nous écoutions un morceau des Beatles. J'avais un peu fait un raccourci de pensée. Et Éric Gossier, tout de suite, a dit « Ah bon, c'est un morceau des Beatles, mais celui-là, je ne le connais pas ». Et pour cause, Éric, c'est un morceau composé à la manière des Beatles par une intelligence artificielle. C'est la Flow Machine de Sony, qui est la première, dit-on, intelligence artificielle à composer des chansons à la manière d'eux. Et c'était en 2016. Ça vous paraît plausible, la première composition de chansons à la manière d'eux en IA, en 2016?
Oui, c'est à peu près l'époque où sont apparus ce qu'on appelle les réseaux neuronaux adversariaux, et qui permettent, génératifs adversariaux, pardon, et qui permettent ce genre de choses. Donc, dès qu'ils sont sortis, on a fait des peintures à la Van Gogh, et puis de la musique à la sauce de... J'avais bien compris que c'était une musique artificielle. Hein,
Par contre, je n'avais pas compris que
c'était à partir des Beatles.
Ah, vous n'avez pas reconnu le style, alors?
Non, pas du tout.
Bah, elle a foiré, cette intelligence artificielle.
RKS, l'esprit grenoblois.
Chaque week-end, sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Dernière séquence de notre émission, la parole est à Damien Bouévin, qu'il faut congratuler, féliciter cette semaine, hein, Damien.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Damien Bouévin, le coordinateur de l'association Nemeton. Nemeton, c'est une structure de médiation culturelle scientifique dans le domaine de la biologie, des biotechnologies et de l'environnement.
Alors vous nous direz si toutes les petites informations qu'on a évoquées sur l'intelligence artificielle vous donnent des idées, à vous aussi, pour les biotech.
Ça n'a pas forcément rapport avec les biotech, mais décidément, je me dis qu'il serait intéressant de stocker des grosses quantités de cartes graphiques et de laisser le cours des cartes graphiques monter pour les revendre
business,
plus tard.
Oui. Donc, ce n'est pas un centre culturel qu'il faut ouvrir, c'est une start-up. Hein, vous faites comme Lucas.
Mais effectivement, il se met à y avoir de l'usage d'intelligence artificielle en médecine et en biotech pour deux trucs principalement. Ça peut être le diagnostic de maladies avec vraiment des indices infimes. En fait, on donne une très grosse quantité de données médicales provenant d'un patient à, je vais caricaturer, à une IA. J'ai fait des crochets avec mes doigts. Et elle arrive à sortir des diagnostics qui... peu à peu commence à être plus précis que ceux qui sont parfois posés par des médecins humains. En tout cas, l'IA est plus facilement sensible à des signes sous-jacents. Du coup,
revenez à Nemeton.
Nemeton, on fait des animations et des ateliers à destination du jeune public. On fait par exemple des ateliers au cours duquel ils peuvent fabriquer des véritables microscopes extra plats en papier. Ils sont pas très chers, du coup à la fin chaque participant et participante repart avec son vrai microscope. Et à côté de ça, surtout, en tout cas c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'association Nemeton ouvre
un... Il y a bien une lentille, je ne vous crois pas.
Si,
il y a une lentille, il y a une optique, donc il y a à la limite une goutte d'eau, d'huile ou une
c'est
petite plaque de verre.
C'est une bille en verre de moins d'un millimètre de diamètre. Et c'est le seul élément, quasiment le seul élément dans ce microscope.
Ah,
il
n'y a pas que du papier.
Sinon, alors, il y a du papier. Il y a du papier plastifié un peu épais. Il y a deux petits aimants qui aident à refermer et à tenir la petite lame de microscope en place quand on fait les observations. Et il y a une toute petite bille en verre. Et en fait, c'est tout simplement calé sur la façon dont fonctionnaient les tout premiers microscopes où, en fait, j'ai oublié son nom, malheureusement, mais celui qui a inventé le principe de microscope. Tenait avec une pince une toute petite bille en verre à proximité de son œil et observait ainsi des choses avec cette toute petite bille tenue quasiment contre son œil.
C'est ce principe-là que vous mettez en œuvre.
C'est ce principe-là qui est utilisé dans ces microscopes en papier, du coup.
Et alors, donc, avec les indicateurs sanitaires qui qui nous ramène dans une période un peu plus raisonnable, avec plus d'espoir, vous pouvez de nouveau accueillir des gens. Enfin, vous pouvez accueillir des gens sur site à cette ouverture.
Oui. Et ça tombe à point nommé, parce que du coup, notre laboratoire de biologie associatif, notre Biolab, ouvre enfin ses portes. Du coup, ce laboratoire de biologie associatif, il permet d'accueillir nos adhérents et adhérentes. Du coup, ils peuvent participer à des projets qu'on fait de manière collective. Par exemple, on fait pousser des tabourets directement en forme de tabouret à l'île verte, en faisant du guidage de croissance végétale. Et on les fait participer aussi à des sorties scientifiques exclusives. Par exemple, le week-end dernier, on est allé voir une ferme de spiruline dans la vallée du Grésivaudan.
Et alors, vous faites tout ça uniquement pour distraire le bon peuple avec du savoir dans le mode « le saviez-vous ? On peut faire des tabourets ?» Non, vous avez une démarche citoyenne. Vous me disiez, juste avant d'entrer dans le studio, que vous venez de boucler un gros dossier européen pour la sensibilisation des jeunes à la citoyenneté. Et vous rentrez avec votre contribution biotech dans ces processus-là.
Ouais, on est vraiment porteur de valeurs d'innovation populaire d'appropriation des connaissances scientifiques par des gens qui sont potentiellement au départ assez éloignés de ces sujets-là. Chez nous, il n'y a pas besoin d'avoir fait spécifiquement d'études scientifiques pour participer à un projet collectif.
Lucas, Naxa, ça vous intéresserait pas d'aller faire, vous qui vous intéressez à la magie le week-end, vous nous l'avez dit, ça vous intéresserait pas d'aller faire un petit peu, croiser un peu vos connaissances en intelligence artificielle, votre savoir-faire de magicien avec les savoir-faire de druide, des forêts, de Damien, c'est une blague un peu entre nous.
C'est très intéressant et je pense qu'on peut utiliser ce type d'art, la magie par exemple, pour faire passer certains messages et rendre plus intéressant, plus attractif, plus pédagogique certaines choses qui peuvent être complexes.
La magie pour la médiation, c'est peut-être un de vos projets de communication. Alors très rapidement, vos grands projets ou les grands axes sur lesquels vous êtes à Néovision.
Alors nos grands projets à Néovision, on développe beaucoup l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le domaine du médical. On a des gros projets aujourd'hui dans le dentaire, par exemple, pour aider les dentistes de demain à mieux analyser les pathologies qu'il peut y avoir dans une bouche. Et on travaille beaucoup aussi dans le domaine de l'environnement, pour le tri du déchet.
Éric Gossier fait remarquer qu'on a un miroir de dentiste dans notre téléphone.
Et pour le tri du déchet, pour améliorer les performances des centres de tri.
Santé, dentiste et tri des déchets. Éric Gossier, de votre côté, donc plutôt académique, quels sont les grands axes auxquels vous vous attaquez avec cette communauté que vous rassemblez sur l'intelligence artificielle à Grenoble ?
On a deux grands thèmes. Le premier, c'est l'IA du futur, dans lequel on s'intéresse à la fois aux aspects logiciels, mais aussi matériels. Les architectures matérielles embarquées pour l'intelligence artificielle. Il y a un deuxième axe autour de l'IA pour les humains et l'environnement. Et là, on s'intéresse un peu au regard de philosophes, de juristes, de sociologues sur l'IA aussi.
Autant de thèmes que vous avez évoqués au cours de notre conversation.
À peu près autant de thèmes qu'on a évoqués au cours des conversations et beaucoup de thèmes appliqués aussi, puisque l'IA devient de plus en plus appliquée.
Éric Gossier, directeur du MIAI, Institut de Recherche sur l'Intelligence Artificielle à Grenoble, une part de l'Université Grenoble-Alpes. Vous étiez avec nous ce matin. Et vous êtes bienvenu pour revenir une autre fois, parce que je sens qu'on a beaucoup d'autres choses à se raconter. Et Lucas Naxa, fondateur et président de la start-up Néovision, merci, vous aussi, vous pouvez revenir peut-être plutôt pour parler de magie que d'intelligence artificielle.
Avec
pourquoi
plaisir.
Pas. Le miroir des sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. Merci donc messieurs Éric Gossier et Lucas Naxa. Merci aussi Damien Bouévin. Le miroir des sciences est en réécoute sur les principaux flux de podcasts et sur le site de Radio RKS. Alors si la production de RKS avait les moyens, nous vous aurions fourni messieurs des shorts et des chemises blanches pour monter sur le pont pour la conclusion de cette émission. Qui d'entre vous connaît le commandant Stubbing, le commandant de bord de la série La croisière s'amuse, un must de la télé des années 80. Gavin MacLeod, l'interprète de ce personnage, est décédé cette semaine à l'âge de 90 ans. On se remémore le fameux générique de la série. Portez-vous bien sur RKS. Love, exciting and new.
come aboard. We're expecting you.